toujours un peu mal à l'aise d'arriver pour parler de ces questions-là, moi qui suis très privilégié, qui ai une position très facile en fait, celle de professeur, payé grassement sur vos impôts, pour réfléchir à ces questions, sans grand risque, alors que je sais que dans cette salle, il y a des humains qui prennent beaucoup plus de risques concrets que moi pour changer les choses. Donc voilà, je me sens quand même toujours un peu petit. Alors ce que je vais faire, c'est évidemment pas professer, je viens partager des idées sur lesquelles j'essaye de travailler et de réfléchir quand l'université productiviste d'aujourd'hui laisse le temps de réfléchir, ce qui est de moins en moins le cas, c'est vraiment très difficile, mais bon. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est pas une présentation sur la décroissance, en tout cas pas la décroissance, pas une introduction à la décroissance. J'ai présumé que la plupart d'entre vous saviez déjà à peu près de quoi il est question. Si jamais c'est pas le cas, dans la discussion, on pourra revenir clarifier un certain nombre de choses. Mais j'ai essayé d'aller peut-être un pas plus loin. En fait, surtout, ce que je proposais, c'est de partager des éléments de réponse à la question. Qu'est-ce que vous proposez, vous, les décroissants, hein, ou les objecteurs de croissance? Parce que la décroissance, c'est surtout au départ une critique, en fait, de notre monde. Mais finalement, il y a tout un travail qui reste à faire sur ensuite qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, pour répondre à cette question, que proposez-vous? Bon, peut-être que le plus sage serait de répondre par le slogan des étudiants du printemps 2013, ceux qui ont tenté de relancer le mouvement après 2012, le slogan qui était « fuck tout ». Bon, voilà, « fuck tout », ça pourrait être une bonne façon de poser le truc. Bon, le problème, c'est que, bon, je suis assez d'accord, mais comme dit un auteur dont on connaît pas le nom, il est connu sous le nom PM, il a écrit un livre qui s'appelle « Bolo Bolo », qui a été publié en 1998. Donc PM dit ceci, le problème c'est que la machine travail planétaire doit être démantelée soigneusement car nous ne voulons pas mourir avec elle. Voilà, si on veut pas mourir, peut-être que le fuck tout est pas une bonne idée. Donc n'oublions pas que nous sommes une partie de la machine et qu'elle fait partie de nous-mêmes. Alors, voilà le problème de départ. Donc comment sortir de là sans y perdre la vie, quoi. En gros, pour si on veut dramatiser un peu la situation. Donc comment faire? Donc, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est de quel monde voulons-nous, évidemment. Puis là, il peut y avoir bien des désaccords, donc je vais partir de ma propre position. En ce qui concerne la décroissance, donc ce dont nous ne voulons plus, c'est cette course à la croissance, pour trois grandes raisons, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais la raison écologique, c'est cette croissance est en train de détruire les conditions d'habitabilité de notre planète. Cette course à la croissance, elle est par ailleurs structurellement, fondamentalement injuste. En fait, c'est une espèce de jeu pipé, pipé d'avance, un jeu truqué, auquel ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Et puis, troisième raison, c'est que c'est aussi une course qui devient finalement une fin en soi, en fait. Et on devient tous et toutes des moyens de cette course, hein, de cette croissance. Donc quelque chose qui va contre, finalement, notre liberté la plus élémentaire. Donc ça, c'est ce que nous ne voulons plus. Maintenant, une fois qu'on a posé ça, dans quel but? Pour faire quoi? Quel est l'enjeu essentiel de cette lutte contre les sociétés de croissance? Alors là, il y a le débat est ouvert, et je vais présenter, en fait, moi, ma réponse, que j'essaie d'élaborer. Et cette réponse, elle doit beaucoup au travail de quelqu'un qui s'appelle André Gors, que sûrement certaines et certains connaissent ici, qui est un philosophe qui est pour beaucoup dans l'idée de décroissance. Dès les années 70, il a commencé à amener cette idée. Et Gors pose en fait une alternative concernant l'action écologique à mener pour arrêter la catastrophe en cours, dans un texte que vous pouvez trouver facilement sur Internet, qui s'intitule « L'écologie politique entre expertocratie et auto-limitation ». Voilà, vous avez déjà les deux termes de l'alternative qu'il pose. Donc il renvoie à deux démarches possibles en matière d'écologie, hein, deux démarches fondamentales. La première de ces démarches, qu'il appelle l'écologie expertocratique, elle a pour objectif fondamentalement de ménager la nature, en fait, bon, d'essayer d'arrêter le désastre, fondamentalement, dans un souci de survie. Bon, donc on veut ménager la nature pour survivre, mais en quelque sorte à l'insu des humains, sans avoir besoin de solliciter leur appui, sans même qu'ils en aient l'intention, hein, en faisant ça sans qu'on ait à s'en mêler. Et surtout sans rien changer d'essentiel à nos manières de vivre ensemble. Et ces manières de vivre, elles restent les mêmes, celles qu'on connaît, que Gorce appelle des manières de vivre hétéronomes. C'est-à-dire que nous subissons les lois de systèmes qui nous dominent complètement. Alors, les deux grands systèmes qui nous dominent, si on caricature, c'est le système capitaliste, dont la loi fondamentale est celle du profit. Et puis, les autres systèmes sont des systèmes techno-scientifiques, techniques, dont la loi fondamentale est la puissance immédiate, directe. Bon. C'est ça l'hétéronomie dans laquelle nous vivons. Donc, dans l'écologie expertocratique, on change rien de tout ça. On cherche juste à sauver ce qui doit être sauvé pour rester en vie, fondamentalement. Les moyens de cette écologie expertocratique, on les connaît, et puis le nom lui-même le dit. Le premier moyen, c'est les experts. Ce sont les experts qui vont fixer les limites à ne pas dépasser sur le plan écologique et qui vont aussi déterminer les moyens à mettre en œuvre pour que ces limites soient respectées. Par exemple, en créant un marché du carbone. Le marché du carbone, c'est typiquement la solution expertocratique. Donc, on n'a vraiment pas besoin de demander aux gens s'ils sont d'accord ou pas. On crée ce marché, on fixe des limites, on fixe des règles du jeu, et c'est parti. Donc, les experts sont ceux qui ont finalement le gros bout du bâton, si je puis dire. Mais ils ont besoin, évidemment, de l'État qui va soutenir, qui va assurer que leurs propositions sont mises en œuvre en utilisant la contrainte ou mieux encore des incitations. Des incitations, on va jouer sur les prix, par exemple, pour orienter le comportement des humains dans la bonne direction fixée par les experts. Et puis, évidemment, on a besoin aussi de ces fameuses technosciences. On a besoin de techniques, de solutions techniques. Alors, c'est ça, l'écologie expertocratique. Des experts qui décident, un État qui soutient, et des techniques puissantes, des technosciences, c'est-à-dire des techniques développées en s'appuyant sur la science, qui sont essentielles à cette tentative de sauvetage. Ça repose sur une vision de l'humain très particulière, hein. L'humain comme une espèce d'animal un peu imbécile, très égoïste, à qui il faut pas trop demander son avis, et qu'on va essayer de diriger un peu comme un mouton, hein, par son berger, quoi. C'est pas mal ça, l'implicite de cette approche. Donc l'exemple caricatural d'une démarche écologique expertocratique, c'est ce marché du carbone dont je parlais tout à l'heure, dont on a été très fiers, enfin on, je ne sais pas qui est ce on, mais Dumont a été très fier de ce marché du carbone, mais dont on constate qu'il marche de moins en moins bien, en fait, hein, notamment comparé à la taxe carbone. Si on se situe sur ce terrain-là, ça va pas bien. Cette semaine est sorti un article dans la presse, là, notre bourse du carbone est dans le champ, hein, donc par une journaliste de la presse que je crois pas être très anticapitaliste, Stéphanie Gramont, mais qui constate que ça fonctionne pas. Bon. Voilà. Bon, puis sinon, ça c'est le marché du carbone. Puis après, sur le plan technoscientifique, il y a tous les dispositifs, par exemple, de captation, séquestration de carbone, qui sont aussi typiques de cette démarche. Les projets de géo-ingénierie du climat, finalement agir sur le climat terrestre pour essayer d'atténuer les problèmes du réchauffement climatique. Voilà aussi des mesures typiques de cette écologie expertocratique. Ça, c'est la première possibilité. À laquelle Gorce oppose une seconde possibilité qu'il appelle l'écologie politique. L'objectif, cette fois, est très différent. L'objectif immédiat, c'est finalement de protéger un milieu de vie, ou ce qu'il en reste, défendre ce qu'il appelle un monde vécu, contre sa destruction et sa colonisation par ces grands systèmes dont je parlais tout à l'heure, les macrosystèmes techniques et économiques, qui obéissent donc à ces deux lois, ces deux normes fondamentales, celle de la puissance et celle de la profitabilité. Dans cette perspective, il faut sauver la nature, évidemment, ce qu'il en reste, mais aussi la liberté et la justice. Aussi la liberté et la justice, pas seulement la nature. Bon, Rimouski est un territoire, comme à peu près partout dans le monde aujourd'hui, qui fait l'objet d'une colonisation active par ces macrosystèmes. Donc il y a toutes sortes de projets en cours. Le projet dont parlait Dominique à l'instant, le projet immobilier dans la forêt de Pointe-au-Père, Costco, c'est aussi finalement une forme de colonisation du monde vécu actuellement. On m'a parlé aussi du terminal Suncor. Bon, voilà, ça c'est voilà comment un monde vécu va être colonisé donc par des technosciences tout à fait problématique et de manière très concrète. Donc voilà. Merci à Martin Poirier qui m'avait signalé notamment ces problèmes. Donc il s'agit de l'écologie politique, c'est un mouvement de défense contre ça, contre cette colonisation de notre milieu de vie, sa destruction. Donc au nom d'une défense de la nature, mais aussi donc de la liberté et de la justice. Les moyens qui sont mis en œuvre dans cette perspective-là sont très différents. Il s'agit fondamentalement de luttes défensives, de luttes aussi autonomistes, où on essaye finalement de préserver justement ou de gagner de l'autonomie par rapport à ces macrosystèmes. Ce sont en général des luttes qui sont essentiellement, fondamentalement, profondément démocratiques, donc et qui visent à conserver ou reprendre le contrôle de l'existence, de nos existences et le contrôle sur nos milieux de vie. Alors donc, ce sont plus les experts qui sont aux commandes dans cette perspective-là, mais finalement les habitants de ces milieux de vie qui sont les premiers concernés et donc qui vont eux-mêmes finalement se fixer des limites, qui vont imposer des limites à cette, si possible, à ces macrosystèmes. Des exemples de démarches typiques d'une écologie politique, bah justement, ici, Rimouski en transition, c'est ça. C'est exactement dans la présentation qui nous en a été faite. Mouvement citoyen qui tente, à sa façon, à sa manière, avec ses moyens, de protéger un peu ce milieu de vie. On m'a parlé aussi, ça c'est Noémie qui m'en a parlé, d'une initiative qui s'appelle Ici Saint-Robert, donc dans un quartier de Rimouski, si je comprends bien, où là on a une démarche démocratique, pareil, qui est typique de cette écologie politique. On tente de reprendre un certain pouvoir politique sur nos vies. Ce que fait mon copain Guillaume et son camarade Charles-Émile pour activer des projets de démocratie directe ici, sur ce territoire, participent aussi de cette écologie politique. Bon, et puis si on élargit au Québec, il me semble que ce qui s'est passé contre les projets d'exploitation de gaz de schiste était typique d'une écologie politique aussi. Donc défense d'un monde vécu, d'un milieu de vie. Bon. Ce que font les autochtones, les Atikameks aujourd'hui, qui luttent contre notamment l'exploitation forestière donc sur leur territoire, c'est aussi de l'écologie politique dans une large mesure. Et c'est avec eux qu'il faudrait s'allier si on croit à cette perspective. Mais une initiative comme le Front commun pour la transition énergétique, c'est aussi une très belle initiative d'écologie politique. Là, on part de la base, on essaie de rassembler le maximum d'humains appartenant à toutes sortes de milieux, et puis on constitue une feuille de route, donc une espèce de grand projet politique de transition. Alors, on peut juger ça pas assez radical, mais la dynamique est bien celle de l'écologie politique. Voilà, en gros, la deuxième possibilité, donc que pose Gorce. Alors, j'ai utilisé le terme de monde vécu. Qu'est-ce que c'est qu'un monde vécu, selon Gorce? C'est un monde dans lequel nous réalisons nos intentions, nous voyons, nous comprenons, nous maîtrisons l'aboutissement de nos actes. Hein, un monde qu'on arrive à comprendre, à cerner. Pour nous, donc, occidentaux, a fortiori, quand on vit comme moi dans une métropole, il n'y a plus guère de monde vécu à défendre, en fait. Un tel monde, il a été anéanti par le développement de ces vastes systèmes économiques et techniques qui régulent aujourd'hui nos existences. Autrement dit, la civilisation industrielle a pas mal colonisé nos vies et détruit ces mondes vécus. Sur le plan philosophique, phénoménologique, ça se traduit et notamment par ceci. Et je cite un philosophe, Gunther Anders. Notre monde, pourtant inventé et édifié par nous, est devenu si énorme de par le triomphe de la technique qu'il a cessé, en un sens psychologiquement vérifiable, d'être encore réellement nôtre. Ça n'est plus notre monde. Il est devenu trop pour nous. Bien qu'étant l'œuvre des humains et maintenue en fonctionnement par nous tous, notre monde, se soustrayant aussi bien à notre représentation qu'à notre perception, devient de jour en jour plus obscur. On a beaucoup de mal à se représenter ce monde et à l'imaginer et à le sentir. Donc ça devient toujours plus obscur. Si obscur, je reprends la citation, si obscur que nous ne pouvons même plus reconnaître son obscurcissement. Si obscur que nous serions même en droit d'appeler notre siècle un « dark age ». C'est ça, la colonisation du monde vécu. Mais ce monde n'est pas seulement obscurci, il devient aussi lui-même machinique et nous impose de nous comporter toujours plus comme des machines, sous peine de devenir rapidement obsolètes. Bon, évidemment, Anders écrivait avant l'intelligence artificielle, mais bon, ce qui est en train de se passer actuellement lui donne énormément raison. Le titre de son grand livre, c'est « L'obsolescence de l'homme ». Bon, c'est ce qui est en jeu très concrètement aujourd'hui. Donc, il faut nous-mêmes se comporter de plus en plus comme des machines, apprendre à gérer nos émotions. L'avantage d'une machine, c'est qu'elle n'a pas d'émotion. Donc, c'est ça son avantage sur les humains, à bien des égards. Il faut apprendre nous-mêmes à ne pas se laisser déborder par nos émotions. Hein, donc, Donc ça fait partie des apprentissages de base aujourd'hui d'un humain qui veut fonctionner correctement dans ce monde-là. Et ce qui fait que finalement on est pris dans cette dynamique croissanciste et qui nous fait participer à ce que Anders appelle le monstrueux. Le monstrueux, c'est la destruction industrielle aujourd'hui de millions d'humains par d'autres humains, de millions de vies en général. Voilà, c'est ça la colonisation du monde vécu. Alors, aujourd'hui, au nom de l'urgence climatique, notamment ce qu'on appelle l'urgence climatique, les risques de voir s'imposer une écologie expertocratique de plus en plus autoritaire augmentent rapidement, en fait. Hein. On va encore pousser plus loin dans cette direction. Ce qui se traduirait par un renforcement de ces macrosystèmes économiques et techniques, constitutifs de ce que Anders appelait aussi la méga-machine. Alors, si... C'est là qu'il y a une prise de position politique à assumer ou pas. Si nous considérons que la survie n'est pas un projet de vie et qu'il est essentiel de ne pas seulement sauver la nature mais aussi la justice et la liberté, notre souci doit être justement la reconquête ou la reconstruction d'un monde vécu, c'est-à-dire un vrai espace social dans lequel, je cite Stéphane Haber, un autre philosophe, dans lequel nous pouvons agir et penser avec plus d'aisance parce qu'il est moins immédiatement soumis à la contrainte de la reproduction du capital et de la technicisation à marche forcée qu'elle impose. Le monde de la vie vraiment vécue, de la vraie vie. Bon, c'est assez proche aussi, je crois, de ce que Jérôme Bachet, un autre philosophe intéressant sur ces questions, appelle les espaces libérés. Donc la conquête et l'élargissement de tels espaces constituent pour moi le projet central de la décroissance, tel que je l'envisage. La décroissance, pour moi, devrait d'abord être une tentative de reconquête d'un monde vécu. Alors comment tenter cette reconquête? Je vais proposer cinq directions, cinq perspectives que on pourrait tenter de mettre de l'avant, donc qui sont des points de repère, en fait. La première de ces perspectives, c'est la perspective de la subsistance. Défendu concrètement par beaucoup d'humains encore aujourd'hui, mais formalisé d'un point de vue théorique par trois femmes allemandes, trois sociologues écoféministes allemandes, Maria Mies, Veronika Benold Thomsen et Claudia von Verloff. Donc les trois commères qui défendent cette idée de subsistance, qui est une idée toute simple en fait, qui consiste à dire notre première préoccupation devrait être en fait en tant qu'humain de produire et reproduire la vie. De vivre, tout simplement. C'est ça qui devrait être l'objectif. Ça paraît un peu niais à dire comme ça. Mais en fait, c'est totalement révolutionnaire, parce que si on admet que nous sommes dans le capitalisme, on est obligé aussi de reconnaître que ce capitalisme ne se donne absolument pas comme objectif de nous faire vivre. Hein. Il se donne comme objectif, son nom le dit bien, d'accumuler du capital. Bon. Et on en a toutes sortes d'indices. Hein. Le fait même que une grande partie de l'humanité aujourd'hui n'ait pas de quoi vivre dignement et une partie n'est même pas de quoi vivre tout court, est bien la preuve que notre système économique n'est pas orienté vers la satisfaction des besoins humains. Il est orienté vers toute autre chose. C'est cette accumulation de capital. Donc, remettre de l'avant la nécessité de produire et reproduire la vie, c'est absolument révolutionnaire par rapport au capitalisme. Il faut, plus concrètement, en fait, s'inventer une vie dans laquelle on n'est pas condamné à travailler pour gagner de l'argent qui va nous permettre d'acheter des marchandises qui vont nous permettre d'exister pour ensuite recommencer à gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on va gagner cet argent? En produisant nous-mêmes des marchandises, donc d'être pris dans cette logique de la marchandise. Bon, c'est ça qu'il s'agit de rompre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans cette direction-là? Fondamentalement, ça suppose de viser des formes d'autoproduction, autoconsommation, auto-approvisionnement, autosuffisance. Bon, en fait, abolir cette espèce de frontière entre la production, la production et la consommation, entre les producteurs et consommateurs. Il s'agit aussi, pour ces trois femmes qui sont derrière cette proposition, de revaloriser et partager justement les activités de subsistance. Celle qui consiste d'abord et avant tout justement à produire et reproduire la vie. Ce qui amène à abolir d'ailleurs la distinction entre production et reproduction, en fait, alors en tout cas la questionner, qui est une distinction aussi assez fondamentale dans notre monde actuellement, qu'il faudrait abolir. Ça amène à redéfinir complètement l'idée de richesse, hein, aussi. La richesse sous le capitalisme, bah, c'est l'accumulation d'argent par la production de marchandises. C'est ça la richesse. Bon, là, on est sur un tout autre terrain. Ça amène aussi, par exemple, à remettre en question cette espèce d'admiration incroyable dont font l'objet ce qu'on appelle les self-made men, qui eux-mêmes donc participent à cette accumulation d'argent. Donc arrêter finalement de faire l'apologie de ce genre de personnage. Bon, self-made man, en plus du point de vue de la subsistance, c'est une monstruosité anthropologique. Ça n'existe pas, évidemment. Mais en même temps, en l'affirmant constamment, on laisse croire que oui, ça existe, des hommes qui se font tout seuls. Bon, non, aucun humain ne se fait tout seul. Il a besoin justement d'un travail dit de reproduction qui est absolument essentiel. Donc arrêter de faire la promotion de ces self-made men ou de ces entrepreneurs, mais faire la promotion plutôt des entreteneurs, de ceux qui entretiennent les conditions de possibilité de la vie sur Terre. Voilà un des virages que propose la perspective de la subsistance. Qui, ultimement, déboucherait sur quoi? Sur, finalement, la réinvention d'une espèce d'économie paysanne, un empaysannement ou ré-empaysannement du monde. Ça ne veut pas forcément dire qu'on redeviendrait tous et toutes des agriculteurs, mais ça voudrait dire que, par contre, nous redeviendrions en grande partie aussi des paysans, ou comme on dit au Québec, des habitants, mais des vrais habitants. Bon. Voilà, alors ça c'est la première perspective que je trouve très très intéressante, parce que, en plus, elle a été élaborée avec des femmes dans des pays du Sud. Donc on écarte en fait deux grandes critiques qu'on adresse souvent à la décroissance, d'être un mouvement de blancs riches. La perspective de la subsistance, c'est un mouvement de femmes pauvres, en fait, qui disent on veut pas du monde industriel, la civilisation industrielle, on n'en veut pas. Ce qui vient contredire aussi cette espèce de mythe qu'on nous raconte beaucoup, à savoir que finalement toute l'humanité aujourd'hui sur la planète voudrait vivre comme on vit en Amérique du Nord. Bon, non, il y a beaucoup d'humains depuis bien longtemps qui se sont opposés à cette perspective-là, mais c'est sûr que on les a passés dans les poubelles de l'histoire. Il s'agit de remettre de l'avant leur résistance. Ça, c'est la première perspective que je suggère, première direction, qui donne finalement la direction générale. Puis quand on creuse, si vous connaissez pas, si vous intéressez un peu à ces réflexions, c'est des réflexions élaborées dans les années 80-90 par des Allemandes, donc ça commence à être traduit en français actuellement. Mais en fait, quand on les lit aujourd'hui, on se rend compte que les idées de décroissance, elles les avaient formulées bien avant qu'on en parle au début des années 2000, donc c'est très très en avance. C'est pour moi la décroissance avant l'heure. Donc voilà pour la première perspective. Deuxième perspective, cette subsistance. Comment est-ce qu'on peut assurer la subsistance? Ça supposerait forcément un travail collectif. Un travail collectif et un partage des richesses nécessaires aux activités de subsistance. Richesse, tous les sens du terme. Richesse naturelle, richesse artificielle, richesse tangible, richesse intangible. Alors ça, c'est ce que permettent de faire, en principe, ce qu'on appelle les communs. Donc deuxième perspective, la perspective communaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un commun, selon moi? C'est un collectif d'êtres humains qui se constitue pour satisfaire par lui-même et pour lui-même une ou plusieurs nécessités de l'existence. Se loger, se nourrir, se soigner, se divertir, se reposer, se déplacer. Dans une logique donc d'autoproduction. On refuse justement le passage par la marchandise. Deuxième principe des communs, la mise en partage en fait des richesses nécessaires à ces activités de subsistance. Contre leur privatisation ou contre leur étatisation. En fait, c'est un refus de l'idée même de propriété, avec un rapport complètement inversé à ces richesses, un rapport dans lequel, finalement, l'humain devient responsable de la richesse, plutôt que le souverain absolu sur ses richesses. Donc, quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Troisième principe fondamental du commun, on ne partage pas seulement ses richesses, on partage aussi les décisions concernant la vie de ce collectif. Donc c'est le principe de démocratisation. Et quatrième principe, comment fonctionne ce commun? Sur la base de rapports d'entraide et de réciprocité. Donc c'est le pari de la coopération dans un refus des rapports d'exploitation. Alors des exemples, on peut en trouver pas mal. Jamais des exemples purs, parfaits, en fait. Ça n'existe pas, les communs purs, ne serait-ce que parce que finalement, aujourd'hui, tout est approprié, soit par l'État, soit par l'entreprise. Donc ça sera jamais parfait, ce qu'on aura comme commun aujourd'hui. Mais quand même, alors dans le coin de Rimouski, et merci encore à Noémie qui m'a aidé à repérer, enfin, je connaissais certaines initiatives, mais il y en a d'autres. On a parlé tout à l'heure de l'outillerie. L'outillerie, voilà, un commun classique, on partage des outils, on partage des savoirs, on met en commun tout ça pour réapprendre à faire soi-même un certain nombre de choses, bon, à sortir de cette hétéronomie dans laquelle on est aujourd'hui tous et toutes coincés. J'ai été donc à Saint-Valérien. Bon, Saint-Valérien, centre communautaire de Saint-Valérien, se représente ou pourrait devenir pour les habitants de Saint-Valérien un commun, un vaste commun ou un commun de commun. Mais au centre communautaire, il y a notamment le cercle des fermières. Voilà une vieille invention québécoise qui est typique d'un commun, un commun de femmes. Mais c'est exactement conforme à ces principes que j'évoquais tout à l'heure. À Rimouski, on m'a parlé des soirées comprendre le monde, bon, une espèce d'université populaire. C'est un commun. Voilà, on va se la faire nous-mêmes, notre université en fait. Hein, par et pour nous-mêmes, on va se former. Et c'est intéressant parce que quand on fait l'histoire de l'université occidentale, on se rend compte que la première université, celle de Bologne, créée à la fin du XIe siècle, est en fait un commun. C'est les étudiants à l'époque qui disent on veut plus finalement de l'école ecclésiastique qu'on a jusqu'ici. On va se la créer, notre école. Et qui se créent littéralement leur école. Et c'est les étudiants qui le font. La Sorbonne est aussi un commun, mais un commun de profs. Pareil, les profs aussi donc s'autonomisent par rapport à l'Église et créent leur propre université. Mais ça, c'est les profs. Peut-être plus intéressant si ça vient des étudiants, de ceux qui veulent se former. Voilà pour quelques exemples. Moi, j'avais été aussi assez fasciné par le frigo de la ferme de la dérive à Sachetère. Bon, Sachetère est aussi un commun, un très beau commun, donc qui bénéficie de ce régime juridique très intéressant au Québec, qui est le régime de fiducie d'utilité sociale, qui est un véhicule juridique parfait pour communaliser certaines choses. Mais j'avais beaucoup aimé le frigo de la dérive, là, qui est sur le bord de la 132, et qui donne tort à tous mes collègues économistes, quoi. C'est-à-dire puisque finalement ce truc est ouvert à tous les vents, il y a vraiment des richesses quand même très intéressantes dans ces frigos, parce que bon, il y a des légumes, il y a de la viande, enfin des choses qui valent cher. Et puis, d'après Gabriel Leblanc, il n'y a pas de vol, ça fonctionne. Donc c'est finalement les usagers de ce frigo en tiennent. Se soucient de son fonctionnement, en prennent soin de telle sorte que ça continue à fonctionner. Voilà, c'est un commun modeste, mais un commun tout de même. Puis on m'a parlé aussi des frigos Ricky, qui semblent être aussi un commun très 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 intéressant. Voilà pour quelques exemples. Mais comme je disais, c'est jamais parfait, mais ça se rapproche quand même de ce que j'ai posé comme principe. Mais comme c'est jamais parfait, je préfère parler de communalisation, plutôt pour donner une direction, hein, pas s'arrêter sur les impuretés de nos initiatives, mais plutôt voir si elles vont dans la bonne direction. La communalisation, pour moi, c'est la démarche qui consiste à tenter d'assurer notre subsistance, donc via les communs. C'est ça, la communalisation. Pas de commun pur, je l'ai dit, mais toute richesse peut être communalisée, hein, même mon verre peut être communalisé. Bon, ça va se compliquer un peu la vie, c'est pas la nature du bien qui détermine son usage. C'est nous, collectivement, qui déterminons l'usage des biens. On va dire, tel bien, ça doit être communalisé. Tel bien, on peut le laisser peut-être à un usage privé, mais tel autre bien, on va considérer qu'il est trop crucial, trop important pour être laissé aux forces de l'entreprise privée ou à celle de l'État, fondamentalement. Donc tout peut être communalisé, y compris bien sûr les savoirs. Bon, on vient d'en parler à propos de l'université, mais aussi des savoirs très pratiques. Les corporations médiévales, il y a quelque chose à aller rechercher dans le modèle des corporations médiévales, qui était une forme de communalisation des savoirs, hein, fondamentalement. Donc derrière la communalisation, il y a d'abord et avant tout un choix politique. La communalisation peut aussi s'appliquer à toutes sortes de nécessités, dont celle d'échanger entre les humains. Parce que, bon, oui, j'ai mis de l'avant la subsistance, j'ai dit la subsistance, c'est l'autoproduction, l'autoconsommation, l'autosuffisance, mais les humains ne pourront jamais produire par et pour eux-mêmes tout ce dont ils ont besoin. Ils vont avoir besoin, donc, d'échanger. Donc l'échange est une nécessité humaine, à la fois pour réussir à bouffer, mais aussi parce que, fondamentalement, on est des animaux sociaux, donc l'échange a quelque chose de profondément humain aussi. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces échanges sont dominés par ces logiques capitalistes, hein, dans une large mesure. et que la monnaie est devenue elle-même une marchandise. Bon, c'est le grand problème de notre un des grands problèmes de notre temps. Mais on pourrait très bien imaginer se réinventer des moyens d'échange sur lesquels nous avons un contrôle et que nous pouvons communaliser. Alors c'est ce qu'on fait quand on crée une monnaie locale, une monnaie complémentaire, c'est on essaye de faire un commun qui vise à nous donner des moyens d'échanger entre nous. Et donc, toujours dans cette perspective, on a tendance aussi à gauche, pour moi ça c'est peut-être une des critiques principales que j'adresserai à la gauche, à faire du marché l'ennemi absolu. Bon, tout le problème vient du marché libre. Alors c'est complètement, à mon avis, se tromper. Bon, c'est un peu prétentieux de ma part de dire ça, de prendre à revers toute la gauche, mais bon, quand même, je vais l'assumer. On n'est pas dans un régime de libre marché, on est dans un régime de libre entreprise, hein, donc qui laisse émerger notamment d'énormes parasites sociaux que sont les grandes entreprises, hein, qui siphonnent l'essentiel de nos richesses et nos énergies. On est dans un régime de libre entreprise. C'est contre ça qu'il s'agit de se battre. Et plus on laisse le champ à l'entreprise, moins il y a en fait de marché au sens classique du terme. Le marché au sens classique du terme, justement, c'est un espace d'échange, hein, entre des producteurs qui ont besoin en même temps d'accéder à des productions qu'eux-mêmes ne produisent pas, donc ils ont besoin d'échanger avec d'autres. Le boulanger a besoin, d'échanger avec le maraîcher. Donc on a besoin de marché, mais on a besoin d'un marché qui serait lui-même communalisé, qui serait sous contrôle de ses utilisateurs. Donc c'est aussi à réinventer, ça s'inscrit dans cette logique de communalisation. Donc ce commun, il doit se constituer, parce que c'est un peu un des risques aujourd'hui, hein, il y a des communs qui peuvent devenir des espèces d'îlots aussi, de vie assez satisfaisants pour des bobos, c'est un peu le problème. Si on veut donner au commun toute sa portée, il doit se constituer vraiment contre l'entreprise capitaliste et aussi, à mon avis, contre l'État bureaucratique. Le principe clé, c'est essayer de gagner en autonomie collective, se prendre en charge, se donner ses propres lois, ses propres normes collectivement. Voilà. Ça, c'était ma deuxième proposition. Donc, première proposition, subsistance, qui s'appuie sur la communalisation, sur les communs. Troisième proposition. Troisième perspective, la perspective low-tech, ou pour parler en meilleur français, la perspective basse technologie, que je vais définir. Je l'ai dit tout à l'heure, les technosciences, donc ces techniques industrielles qui se sont développées sur la base d'une science qui elle-même s'est mise au service finalement de la technique, la science a un peu perdu son objectif fondamental qui est de connaître le monde, mais peu à peu son objectif est devenu de transformer le monde en fait, et de contribuer au développement de ces techniques qui aujourd'hui nous détruisent et nous aliènent. Donc dans cette perte du monde vécu, les technosciences jouent un rôle évidemment fondamental. On ne pourra donc reconquérir quelque chose comme un monde vécu qu'en privilégiant de toute autre technique qu'on appelle les basses technologies ou qu'en adoptant cette perspective low-tech. Trois critères très simples d'une technique qui serait cohérente avec cette perspective décroissanciste, avec ce projet de reconquête d'un monde vécu. Il faut que cette technique soit soutenable sur le plan écologique. Ce moyen, ce procédé, peut-il bénéficier aux humains sans dégrader davantage les conditions d'habitabilité de la planète ? Premier critère, qui renvoie à des sous-critères. Hein. Ça suppose que cette technique utilise assez peu de ressources non renouvelables, ou qu'elle utilise des ressources renouvelables mais à un rythme qui permet le renouvellement, que cette technique ne génère pas des déchets inassimilables par les organismes vivants de la planète, notamment. Donc, soutenabilité de cette technique. Deuxième principe, principe de justice, cette technique, ce procédé doit être accessible à tous les humains sans créer ni maître ni esclave, notamment. Ce qui suppose des techniques relativement simples, qui ne supposent pas des concentrations de moyens trop importants, notamment. Troisième exigence, l'autonomie. Ce moyen, cette technique, ce procédé doit permettre à ses utilisateurs de mieux se prendre en charge, donc il y a bien une utilité à la technique, tout en restant contrôlable. C'est l'impératif de contrôlabilité. Est-ce qu'on garde ou pas le contrôle sur la technique ? Alors quand on regarde les techniques aujourd'hui sur lesquelles reposent nos vies, hein, les techniques principales dont on dépend pour vivre, aucune de ces techniques ne passe le test de ces trois critères. Elles sont pas soutenables, elles sont rarement accessibles à tout le monde, en tout cas sous toute leur forme, et surtout elles sont pas contrôlables en fait, elles échappent à tout ça. Alors qu'est-ce que ce serait que des techniques qui répondraient à ces trois exigences, trois exemples rapides. Donc on discute beaucoup aujourd'hui au Québec de nos moyens de déplacement, hein, voiture électrique, voiture à essence, transport individuel, transport collectif, mais on oublie finalement de parier sur une première technique de déplacement qui serait rigoureusement low-tech, qui est la marche à pied. La marche à pied, c'est une technique, puisque vous saviez pas marcher en naissant, et si vous avez la chance d'avoir deux jambes qui fonctionnent, bon, c'est une technique qui peut être tout à fait efficace. Mais pas dans notre monde. Notre monde, il est conçu par et pour l'automobile. Hein, l'automobile est l'architecte de nos territoires, de l'aménagement de nos territoires. Donc évidemment, si on commence à considérer la marche comme la bonne façon de se déplacer, ça oblige à repenser complètement notre territoire et notre façon de l'habiter. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est précisément ça, la reconquête d'un monde vécu. Un monde qu'on peut parcourir à pied, hein, en une journée, par exemple. Bon. Voilà pour une première proposition. Deuxième proposition, on est dans un cégep. Si on veut se former, comment se former de façon low-tech ? Alors moi, je suis arrivé, ça fait 22 ans que je suis à HEC Montréal, et je suis arrivé en même temps que les ordinateurs dans les salles de classe, qui était un premier désastre. Bon, un prof seul face à 30-40 ordinateurs connectés à Internet, c'est quand même toute une job, quoi. Bon, donc vrai gros problème. Mais avec la pandémie, on a vu la classe rentrer dans l'ordinateur. Donc ça, en une étape supplémentaire, là, finalement, de la colonisation de notre monde par la machine. C'est que la classe fait partie de la machine complètement. Bon. Alors qu'est-ce que ce serait que de jouer la carte low-tech ? Bah, c'est de remettre de l'avant la simple salle de classe. En fait, la salle de classe avec le bon vieux tableau et la craie, voilà des solutions low-tech qui ont fait, il me semble, leur preuve. Et puis, bah, s'il faut transmettre du savoir autrement que par l'oral, qui reste quand même aussi une façon très intéressante de transmettre du savoir et d'en partager, bah, le bon vieux livre dans la bonne vieille bibliothèque. Bon, qui reste pratiquement, nos bibliothèques publiques sont quasiment des communs, pratiquement, on s'en rapproche aussi. Voilà, une façon low-tech d'envisager la possibilité de continuer à se former, hein, de façon intéressante et pertinente. Troisième exigence, nécessité de l'existence intéressante à considérer, la santé. Bon, c'est souvent un argument, hein, qu'on utilise contre l'idée de contre la décroissance et contre notre critique des technosciences. Attendez, il faut quand même vous soigner. Si vous aviez un enfant qui a telle ou telle maladie, vous serez bien content d'avoir telle ou telle machine très sophistiquée. Bon. Alors, comment répondre à ça et comment envisager donc la santé dans une perspective low-tech ? Bah, c'est en fait extrêmement simple. Quand on regarde les déterminants sociaux de la santé, on a une solution qui s'impose très vite, qui n'est pas une solution facile à mettre en œuvre parce qu'elle oblige à changer complètement la dynamique de nos sociétés. Mais les déterminants sociaux de la santé nous disent que 60% de notre état de santé aujourd'hui dépend de notre mode de vie et notre milieu de vie, en fait. Donc le système de santé n'est responsable que pour 25% de notre état de santé. Donc c'est très très minoritaire. 15% pour nos gènes. Bon, mais donc ce qui est déterminant pour ce qui est de la santé, c'est mode de vie, milieu de vie. Donc bah, voilà, la piste est ouverte. Changeons nos modes de vie radicalement, marchons notamment, mais pas seulement. Changeons nos milieux de vie et on aura résolu une très grande partie de nos problèmes de santé. Et on n'aura certainement pas besoin de ce système de santé qui nous coûte de plus en plus cher, qui est de plus en plus polluant, qui est aussi de plus en plus inefficace par ailleurs. Donc voilà pour la perspective low-tech. Quatrième perspective municipaliste. Quelle institution politique pourrait nous aider à reconquérir un monde vécu ? Pour moi, ça devrait partir de la municipalité. La municipalité, évidemment, démocratique. C'est pas des choses qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être dans les tout petits villages, on s'en rapproche un peu, mais apparemment pas à Rimouski, de ce que j'ai entendu. la vraie démocratie, quoi. Bon, qui repose notamment, comme le proposait Bookchin, et puis je sais que mon copain Guillaume a amené ses idées justement récemment dans des réunions publiques, qui repose sur l'assemblée municipale. Alors les membres de la municipalité qui sont ceux et celles qui vont prendre la décision. C'est pas seulement des gens qu'on va consulter. Hein. Souvent, on associe la démocratie à la consultation, au milieu de la délibération. Mais laissez-nous donc la décision, nous les professionnels ou nous les experts. Non, la vraie démocratie, évidemment, c'est pas ça. Ça suppose que tous les membres de l'assemblée concernée puissent prendre part à la décision, que cette assemblée soit celle d'un village ou celle d'un quartier. Parce qu'on peut penser aussi à un redécoupage de nos grandes villes sous la forme de quartiers, qui seraient administrés par cette municipalité autonome. Alors, en fait, la municipalité démocratique telle que notamment Bookchin la met de l'avant, c'est encore un commun. C'est un commun qu'on pourrait qualifier de politique, qui satisfait bien deux nécessités fondamentales pour les humains. Hein, celle de vivre ensemble. Les humains, on sait pas faire autrement que de vivre ensemble, les uns avec les autres, pour le meilleur et pour le pire, mais on a besoin de vivre ensemble. Et puis celle d'habiter un territoire aussi. Hein, donc deux nécessités pour les humains. Habiter un territoire, vivre ensemble. Bah, c'est précisément ces deux nécessités que la municipalité peut permettre de prendre en charge, hein, dans le respect des principes que j'ai posés jusque-là, sans recourir notamment donc à un État centralisé et à ses fonctionnaires. On est dans une logique d'autoproduction, cette fois, de la vie collective et de l'administration du territoire. Et puis, cette municipalité autonome, évidemment, elle aurait vocation à coordonner aussi l'activité des autres communs dont j'ai parlé tout à l'heure, communs qu'on pourrait appeler ou qualifier de socio-économiques. Ce qui supposerait alors des choses qui commencent à être plus désagréables, évidemment, puisque là on rentre dans des idées socialistes, ça supposerait une municipalisation, au moins partielle, de la terre et des moyens de production. Donc il faudrait évidemment, pour que ces municipalités puissent satisfaire ces exigences, il faudrait qu'elles aient un minimum de contrôle sur les moyens d'existence et sur le territoire. Choses qui sont pour l'instant inaccessibles. Voilà. Et puis, pour ce qui est, j'écarte tout de suite une objection classique qu'on fait au municipalisme. Pour ce qui est des questions qui dépassent l'échelle de la municipalité et de son territoire, on constitue des assemblées régionales, locales, voire aussi à plus grande échelle, où on envoie des délégués, mais des délégués sur lesquels on garde le contrôle, à qui on donne des mandats impératifs, qu'on soumet en général à rotation, et surtout qui sont révocables. Chose que nos élus ne sont pas aujourd'hui. Voilà pour la perspective municipaliste. Puis je termine avec la dernière proposition, dernière perspective. Quelle est l'échelle ? Quelle serait l'échelle pertinente d'un point de vue géographique, en quelque sorte ? Je propose que ce monde vécu ait pour cadre ce qu'on appelle une biorégion désurbanisée ou démétropolisée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une biorégion ? Je vais reprendre une citation classique d'un des inventeurs de ce concept. C'est un concept qui vient de Californie, donc formulé par des écologistes anarchistes californiens des années 60, 70 et 80. Donc, un des auteurs de cette idée s'appelle Peter Berg, et donc il définit la biorégion comme ceci. Une biorégion est un espace géographique formant un ensemble naturel homogène, que ce soit pour le sol, l'hydrographie, le climat, la faune ou la flore. La population fait également partie de la biorégion, à condition toutefois d'en respecter les caractéristiques naturelles et d'en tirer sa subsistance sur le long terme. Alors c'est là qu'il y a une rupture complète par rapport, évidemment, à notre monde. En d'autres mots, une population ne peut faire partie intégrante d'une biorégion que si elle en protège et en maintient les équilibres naturels. C'est ce que nous appelons la réhabitation, qui consiste en une relation d'interdépendance et d'échange avec l'écosystème de la biorégion. Donc l'une des formes géographiques typiques de la biorégion, c'est le bassin versant, c'est-à-dire un espace qui est alimenté par un cours d'eau et qui est drainé par ce cours d'eau. C'est une des vraies richesses essentielles, évidemment, pour les humains, c'est l'eau. D'où la pertinence de voir dans le bassin versant une forme géographique qui pourrait constituer la base d'une biorégion. Mais il faut aussi que la biorégion présente donc une certaine unité sur le plan social, que s'y développe donc une façon de vivre avec ses particularités, etc. Donc une identité. Ça se rapproche un peu de la notion de pays qu'on utilise parfois en Europe. Là encore, j'utiliserais peut-être une autre façon de le dire pour indiquer plutôt une direction. Hein, donc, et parler de biorégionalisation, de biorégionalisme. Et je m'appuierai sur une autre citation que je trouve très, très éclairante. Qu'est-ce que c'est que s'engager dans une logique biorégionaliste? C'est finalement tenter de réapprendre à vivre in situ. Alors, c'est du latin, donc de vivre sur place. C'est-à-dire de suivre les nécessités et les plaisirs de la vie tels qu'ils se présentent, de façon singulière, en un lieu particulier, et développer des moyens d'assurer une occupation durable de ce lieu. Une société qui vit in situ s'applique à conserver des échanges équilibrés avec sa région d'accueil, au travers de liens multiples entre les vies humaines, les autres entités vivantes et les processus naturels de la planète, saisons, climat, cycle de l'eau, tels qu'ils apparaissent en cet endroit précis. Voilà. Dans le biorégionalisme, ça suppose notamment de connaître son territoire. Hein. Ce serait la première exigence. Chose que peut-être ici vous connaissez un peu, mais c'est très intéressant, notamment d'utiliser le questionnaire biorégional que les biorégionalistes avaient élaboré. Je ne sais plus si je l'ai pris ou pas. On peut faire un petit test. Quoi. Je ne sais pas si je l'ai là. Et, ouais, bon, je l'ai pas. C'est quand même ça vaut le coup si je le retrouve. Vous le trouverez sur Internet, sur la grande machine, petit cuisse biorégional. Savoir si on veut s'engager dans cette perspective-là, ça suppose donc un minimum de connaissances, notamment savoir le chemin qu'emprunte l'eau que vous buvez, de la pluie ou à votre robinet, savoir pour combien de jours reste-t-il avant la prochaine pleine lune, sur quel profil de sol vous tenez-vous actuellement, sous le béton, quel est le total des précipitations enregistrées l'an passé dans la région où vous vivez, quand a eu lieu le dernier incendie près de chez vous, quelles étaient les principales techniques de subsistance des humains qui habitaient la région dans le passé, pouvez-vous nommer 5 plantes indigènes comestibles dans la région et la saison à laquelle chacune est disponible, de quelle direction viennent généralement les tempêtes hivernales, où vont vos déchets, combien de temps dure la saison de croissance des plantes dans votre région, quels jours de l'année les ombres sont-elles les plus courtes, quand le cerf... Bon, le cerf, c'est peut-être pas toujours su, ça pourrait être les cerfs de Virginie. Brame-t-il, quand naissent ces petits? Désignez 5 herbes locales et indiquez lesquelles sont indigènes. Citez 5 oiseaux sédentaires et 5 oiseaux migrateurs de votre région. Historiquement parlant, comment les sols de votre région ont-ils été occupés? Quel événement ou processus géologique a le plus fortement influencé la forme du paysage local? Quelles espèces ont disparu de votre territoire? Quelle est la principale association de plantes dans votre région? Depuis l'endroit où vous lisez ce questionnaire, indiquez le nord. Parmi les plantes sauvages de votre région, quelle est la première à fleurir au printemps? Bon, j'imagine que ils ont ensuite, bon, comme dans les quiz, là, on classe les réponses. Mais je l'ai fait encore hier soir dans un cours à HEC, donc c'est aussi pour ça que je suis un peu fatigué. C'était à 10h du soir. Bon, j'avais 30 étudiants, et puis moi compris, on avait entre 0 et 3 réponses, quoi. Voilà la situation assez critique dans laquelle on se trouve, quoi. Donc on part de très très loin. Et on part de très très loin parce qu'effectivement tout ça, ces connaissances sont totalement inutiles pour nous aujourd'hui. De quoi avons-nous besoin comme savoir aujourd'hui? Savoir les heures d'ouverture de l'épicerie en fait, hein, fondamentalement, c'est important. Puis savoir se comporter pour avoir une job, pour gagner de l'argent, pour pouvoir aller à l'épicerie. Voilà les savoirs qui sont absolument cruciaux. Avoir peut-être un téléphone et savoir qui appeler en cas de problème pour résoudre des problèmes quotidiens. Enfin bon. Voilà, donc la biorégionalisation supposerait évidemment une rupture avec tout ça. Réhabiter la terre, comme disent ses promoteurs, donc contre ce que deux sociologues allemands, Brandt et Wiesen, appellent le mode de vie impérial. Donc c'est un bouquin assez puissant dans lequel ils amènent une idée par ailleurs assez simple, qui consiste à dire que pour nous, surtout pour nous occidentaux, en fait, notre mode de vie suppose finalement l'exploitation de ressources naturelles et humaines partout sur la planète. Comme si on était tous et toutes des petits empereurs, des petites impératrices, en fait, hein, fondamentalement. Et donc, et l'idée de biorégion, c'est vraiment justement de cesser tout ça et de vivre sur la base d'un territoire qu'on occupe et de tirer toute sa subsistance de ce territoire. Alors c'est contre le mode de vie impérial, mais c'est aussi contre la métropolisation du monde, en fait. Un des phénomènes majeurs qui doit affecter, j'imagine, Rimouski, et sans doute à sa façon, c'est finalement cette croissance de quelques très grandes villes, aux dépens non seulement du monde rural, mais aussi de plus petites villes, en fait. Hein. Très grandes villes qui vont siphonner vraiment les richesses humaines et non humaines dans des périphéries toujours plus lointaines. Donc, réhabiter le monde, ça suppose de vivre à l'intérieur des limites d'un territoire à échelle humaine, en y puisant l'essentiel de sa subsistance, selon une perspective d'autosuffisance, et en y prenant en charge aussi, notamment, nos déchets, hein, ce qu'on oublie toujours. Bon, ça suppose que les déchets, ils restent là. Bon, j'aime toujours aussi faire imaginer à mes étudiants le fait que bon, si on gardait nos déchets sur l'île de Montréal. Bon, enfin, bon, de toute façon, ben, voilà, on voit bien tout de suite que Montréal ne peut plus continuer à exister tel qu'il existe aujourd'hui. Une telle possibilité suppose aussi une certaine autonomie politique de la biorégion, qui serait administrée de manière démocratique par ses habitants. Voilà. Pourquoi donc démétropoliser ? Je l'ai dit, donc c'est vraiment un phénomène là qui a quelques décennies maintenant, ce phénomène de la métropolisation du monde, donc des constitutions de très grandes villes, très grandes à la fois en densité, mais aussi en extension, donc on a une urbanisation du territoire, très grandes villes qui vont concentrer toujours plus de pouvoir politique, économique et culturel, donc au sein d'une région qu'elles vont dominer et exploiter. Bon, c'est intéressant de voir notamment les rapports entre les régions au Québec et les deux grandes métropoles, en fait. Il y a quand même une espèce de ressentiment assez clair dans les régions vis-à-vis notamment de Montréal, qui à mon avis témoigne un peu de cette métropolisation. C'est-à-dire ce sentiment diffus que finalement, voilà, on se fait complètement dominer, exploiter par la métropole. Donc cette forme de vie sociale qui est donc en pleine expansion pose de manière caricaturale les problèmes que pose la course à la croissance. Hein, c'est toujours plus insoutenable, toujours plus injuste, toujours plus aliénant. Hein, un des problèmes de ces métropoles qui ne sont plus vraiment des villes, en fait, c'est qu'elles sont invivables. Ce qui fait que si on en a les moyens, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'en foutre le camp pour partir en vacances. C'est tout le tourisme aussi, l'industrie du tourisme qui est alimentée par ça. Donc ce sont des lieux qui ont perdu leur urbanité, ce sont plus véritablement des villes, mais des quasi-entreprises, en fait. Bon. Donc la biorégionalisation devrait consister à réduire et diviser ces espaces urbanisés pour tenter de retrouver, en fait, une symbiose, un équilibre entre ville et campagne. Il ne s'agit pas d'abolir complètement la ville, mais plutôt de retrouver un équilibre probablement perdu entre monde urbain et monde rural. Voilà. Alors. C'est vrai qu'on dit souvent, bon, je pourrais le garder pour la discussion, mais on dit souvent que la ville c'est une bonne solution sur le plan écologique parce que on va rassembler les humains sur un territoire relativement étroit, donc ils vont faire moins de dégâts. Mais ces métropoles, en fait, quand on essaye d'évaluer justement leur impact sur le plan écologique, sont complètement insoutenables pour toutes sortes de raisons. Hein, la hauteur des immeubles, à partir d'une certaine hauteur, ça suppose là toutes sortes d'infrastructures très problématiques. Les villes elles-mêmes ne fonctionnent que sur la base de très vastes infrastructures gigantesques. Les espaces qui sont nécessaires pour soutenir ces infrastructures à la ville sont aussi toujours plus vastes. Donc tout ça contribue à rendre insoutenables ces grandes villes et justifie l'appel à la démétropolisation. Alors, bon, là aussi, j'anticipe peut-être sur la discussion, mais bon, on voit assez vite les risques de l'option biorégionale. Hein. Évidemment, c'est le premier risque, la première inquiétude, ce serait le repli sur soi, hein, identitaire ou pas, en fait. J'ai une chouette biorégion, je vais me la garder pour moi, et puis tant pis pour le reste de l'humanité. Donc, le biorégionalisme n'est défendable que s'il est ouvert sur la circulation des humains, surtout ceux qui en auraient vraiment besoin, et sur la circulation des idées. Bon, évidemment, c'est un beau principe. Concrètement, ça reste pas simple à affronter, mais je pense que ça doit être défendu comme principe là indiscutable, cette ouverture. Par ailleurs, toutes les biorégions ne se valent pas, hein, en termes de potentiel d'existence. Donc, surtout avec ce qui se présente à l'horizon. Hein, il y a beaucoup d'endroits sur Terre qui vont devenir de plus en plus difficiles à habiter. L'idée de réhabiter ces endroits-là va devenir finalement assez saugrenue. Donc, il faut défendre un biorégionalisme solidaire aussi vis-à-vis de ces autres régions du monde. Et puis, nous sommes quand même 8,5 milliards d'habitants. Oui au biorégionalisme, mais un biorégionalisme frugal, forcément. Mais bon, il sera frugal nécessairement. Hein, si on doit produire par nous-mêmes et pour nous-mêmes ce dont nous avons besoin pour vivre, on va se mettre des limites assez spontanément. Ça paraît assez évident, me semble-t-il. Les apports du biorégionalisme, l'idée de biorégion, ça constitue finalement, enfin la biorégion constitue un cadre privilégié pour un monde vécu, hein, notamment de par son échelle relativement réduite. Et puis l'autre apport fondamental, c'est que le biorégionalisme favorise l'entretien des conditions d'habitabilité de la terre, je viens de le suggérer, et surtout il donne un fondement matériel au souci écologique, en fait, hein, qu'exprime très bien Derrick Jensen, un des fondateurs de Deep Green Resistance, un groupe écologiste radical américain, qui dit ceci: si au quotidien l'eau que vous buvez provient du robinet et la nourriture que vous mangez du supermarché, alors vous défendrez jusqu'à la mort le système qui rend cela possible, puisque votre vie en dépend. En revanche, si votre eau provient d'une rivière et votre nourriture d'un territoire, alors vous les défendrez jusqu'à la mort, parce que votre vie en dépend. Pas pour des raisons morales, simplement une question vitale. Bon. Alors la biorégion devrait apporter ça. Alors, c'est sûr que c'est un peu effrayant, ça fait très utopique, mais on a quelques atouts quand même à notre disposition que je voudrais faire valoir avant d'ouvrir la discussion, là encore pour peut-être écarter certaines objections. D'abord, je crois que de notre bord, on va avoir des circonstances historiques qui pourraient aider, en fait. Ces macrosystèmes dont je parle depuis tout à l'heure, de façon peut-être un peu trop abstraite, macrosystèmes économiques et techniques, mais dont on a vu la fragilité, notamment au moment de la pandémie, la fragilité, donc ces macrosystèmes sont fragiles et le seront de plus en plus à l'avenir. Donc ça, c'est autant finalement de circonstances qui vont ouvrir des possibilités, en fait, qui vont probablement forcer une prise en charge par et pour nous-mêmes de la satisfaction de nos besoins fondamentaux. On va vers ça. Bon, évidemment, ces macrosystèmes, s'ils tombent ou s'ils se dégradent, ça peut ouvrir aussi sur le pire, hein, sur des formes de néo-féodalisme, sur des gestions mafieuses, tout ça. Donc c'est un des dangers qu'on a devant nous. Mais c'est des brèches qui ouvrent sur l'un ou sur l'autre à nous de travailler pour que ça ouvre plutôt sur des gains en matière de communalisation et de subsistance. Par ailleurs, en tant qu'humain, on a quand même des belles capacités. Gunther Anders, que j'ai cité tout à l'heure, dit que finalement, avec la domination des techniques sur nos vies, on a développé ce qu'il appelle la honte prométhéenne. La honte prométhéenne, c'est la honte de ne pas être une machine, en fait, de ne pas être à la hauteur de notre machine, hein, qui s'exprime un peu quand on parle d'une erreur humaine. Bon, la machine est bonne, mais ça a dérapé à cause de l'humain, quoi. C'est une façon de l'exprimer. Bon. Mais en fait, bon, il faut quand même le dire, ça paraît là aussi peut-être un peu facile, mais l'humain est quand même un animal assez extraordinaire, hein. Même comparé à la machine, il a des potentialités que la machine n'a pas. Il en a plein, hein. Notamment une dextérité que les machines n'ont pas, une polyvalence que les machines n'ont pas, des possibilités de trouver son énergie sous toutes sortes de formes, donc une très grande polyvalence qu'on a à notre disposition. L'humain est capable aussi d'assurer son propre remplaçant. Pour l'instant, les machines ne savent pas faire ça. En plus, nous, on le fait avec plaisir, donc ça, quand même aussi, hein. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, donc un animal quand même assez extraordinaire. Il faut le redire, quoi. En fait, il y a un potentiel là qui est magnifique. En plus, contrairement à ce que disent mes collègues économistes, l'humain, il aime bosser, il aime travailler, il aime travailler dans une condition, le travail libre, le travail qui a du sens pour lui, pas le travail capitaliste. Et il aime aussi à s'entraider. Bon, il aime aussi à se taper dessus. C'est vrai, je suis pas en train d'idéaliser l'humain, mais il aime à s'entraider. L'humain, c'est un animal qui coopère. Et qui le dit de manière très forte, c'est Darwin. Darwin qu'on associe à cette espèce de lutte pour la vie, qui est juste, et c'est ce qu'il a mis de l'avant. Mais dans son deuxième grand livre, La filiation de l'homme, qu'est-ce que dit Darwin? Les humains sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont coopéré. Et parce qu'ils ont coopéré de telle sorte que c'est quasiment devenu instinctuel chez eux. Donc l'idée de coopération, on peut aussi parier là-dessus, me semble-t-il. Par ailleurs, quand on travaille ensemble, on peut être aussi très efficace. Le travail collectif est excessivement efficace. D'ailleurs, le capitalisme l'a très bien compris. Enfin, bon, on a mis les gens ensemble, divisé le travail, ça développe une quantité de travail impressionnante. Donc il s'agit simplement que ce travail collectif soit mis au service de la subsistance et plus de l'accumulation du capital. Et puis, l'humain, il a beaucoup d'énergie à revendre, surtout l'humain d'Amérique du Nord. Hein. Bon, moi-même, j'ai un certain embonpoint, donc il y a clairement trop de calories qui rentrent dans mon corps. Donc ça, c'est de l'énergie à revendre, ce qui oblige aujourd'hui les humains, surtout dans les villes, pour tenir le coup, à aller dépenser cette énergie sur des tapis roulants ou autour du Mont-Royal. Enfin, bon, un truc complètement fou. J'imagine les humains du futur dépenser cette énergie de cette façon, ça n'a pas de sens. Donc on a de l'énergie à revendre qu'on peut utiliser. Voilà pour les capacités humaines. Autre chose, cet animal, il a produit un patrimoine culturel et intellectuel qui est considérable, qui est aussi magnifique. sur lequel on devrait pouvoir s'appuyer. Donc, il ne s'agit pas de discréditer complètement l'écologie scientifique. L'écologie scientifique est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Il faut la mettre peut-être au service donc d'autres choses que de ces technosciences. On peut aussi parier sur des synergies, des complémentarités. Une même technique, finalement, peut satisfaire en général plusieurs nécessités. Justement, quand je marche, je me déplace, première nécessité. Mais je peux aussi réfléchir, beaucoup plus que si je conduis ou si même je fais du vélo. Et puis, je maintiens mon corps en santé. Donc voilà des nécessités fondamentales qui sont satisfaites par une seule technique toute simple. On peut aussi parier sur des synergies, donc entre notamment les différentes perspectives que j'ai évoquées. Si vous vous engagez dans la subsistance, vous allez peut-être pratiquer des formes d'agriculture qui vont se rapprocher de l'agroécologie, la permaculture. Vous allez être vous-même plus en santé, vous allez avoir des écosystèmes plus en santé, etc. Avec donc des effets secondaires qui vont s'accumuler en fait, et qui devraient donc améliorer considérablement les choses. Et puis aussi, réhabiter le monde, c'est finalement redécouvrir ce qu'on appelle, peut-être un peu chic actuellement, les affordances de la nature. Les affordances de la nature, c'est finalement ce que la nature nous suggère comme usage. Elle nous impose pas des usages, mais elle nous suggère certains usages. Donc, c'est potentiel. Et ces potentiels sont considérables. Et puis, le monde industriel les a complètement négligés. On passe nos vies aujourd'hui. Alors là, maintenant, il fait noir, mais on passe quand même nos vies dans des lieux avec de la lumière électrique. Donc on oublie, c'est un truc assez génial qui s'appelle le soleil finalement, qui éclaire et qui chauffe. Bon, on utilise très très peu finalement ces deux potentiels, ces deux affordances de la nature. On est à côté d'un fleuve qui lui-même donc est desservi par quantité de cours d'eau. Voilà des infrastructures de transport potentielles, bon, avec leurs limites bien entendu, mais on a des infrastructures naturelles qui sont là et qui ne demandent qu'à être utilisées. Ce que faisaient d'ailleurs les Premières Nations. Premières Nations, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est assez fascinant quand on regarde comment étaient réparties sur le territoire du Québec d'aujourd'hui les Premières Nations. En gros, elles étaient réparties dans les très grands bassins versants du Québec, en fait. Donc les 7 grands bassins versants, on retrouve à peu près, pour chacun de ces bassins versants, une Première Nation, ou 2 ou 3 maximum, mais c'est assez frappant. Donc le fleuve et les cours d'eau comme affordance à utiliser. Le froid québécois dont on peut se plaindre, mais qui devrait pourtant nous faire paraître totalement ridicule le fait d'avoir des frigidaires dans nos maisons, par exemple. Bon, voilà, c'est ça, ne pas se servir des affordances de la nature. C'est inventer ces machines incroyables, bon, effectivement, qui sont assez fascinantes, mais tout le réseau qui est nécessaire pour qu'elles existent, bon, alors qu'on a un truc tout simple, un froid naturel, qui suppose qu'on construise un caveau et qui va nous mettre notre bouffe à l'abri pour tout l'hiver. Enfin, voilà, un truc tout simple. Voilà les potentiels. Bon, les choses à redécouvrir dans cette perspective. Bon, je sais pas depuis combien de temps je cause. Je sais pas, Nancy, si t'as regardé. Bon, personne s'est levé encore pour l'instant. Donc je termine. Par où commencer par rapport à cette proposition de reconquête d'un monde vécu? Dans la décroissance en général, on va essayer de proposer une transformation sociale qui partirait par le bas, ce qui serait très cohérent évidemment avec toutes les idées que j'ai mises sur la table. Et partir par le bas, ça supposerait notamment de bâtir des alternatives concrètes, ici et maintenant, des communs, dans une perspective de subsistance, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc l'idée, c'est finalement d'essayer de s'installer dans les espaces-temps qui sont délaissés par la dynamique capitaliste, en fait. Et le capital, il en laisse beaucoup, finalement, des brèches, des espaces qui peuvent être occupés pour essayer de faire émerger ces autres manières de vivre que sont les communs. En gardant à l'esprit que tout commun reste menacé d'épuisement ou de récupération par cette civilisation. On le voit à Montréal, c'est là. On a un cas qui est particulièrement caricatural, qui est celui du bâtiment 7 dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, quartier abandonné justement par le capital, qui va se déplacer ailleurs pour se valoriser, qui laisse donc à l'abandon une population qui reste là, plus ou moins, aidé par les organismes communautaires, qui développe finalement une vie collective assez riche. Le film de Ève Lamont, Le chantier des possibles, montre ça très très bien. La première partie du film montre très bien comment finalement, à partir de ce désastre, se constitue quelque chose comme une vraie vie collective. Et cette vraie vie collective, elle va accoucher de choses très belles. Bon, la lutte contre le casino à l'époque, puis la récupération du fameux bâtiment 7 pour en faire un commun de commun. Bon, hein, un très beau projet, très long, mais magnifique, avec des résultats tout à fait stupéfiants. Donc là, on a exactement l'incarnation de ce que je mets de l'avant. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça a fait aussi ? C'est que ça rend le quartier plus habitable. Donc ça rend aussi le quartier plus intéressant pour tout le monde, ce qui fait que on a finalement des gens qui sont revenus habiter là, des loyers qui ont réaugmenté, et finalement le capital qui revient. Le capital revient dans un territoire qu'il avait dévasté, et il va récupérer ça. Donc comment faire ? Donc c'est là où on ne peut pas se contenter juste de parier sur les communs. Il faut absolument que ces communs soient soutenus par des luttes politiques plus classiques, comme celle qui était évoquée tout à l'heure en début de conférence. Donc couplage avec des luttes qui peuvent prendre toutes sortes de formes, des luttes qu'on appellerait symbiotiques, donc où on joue les règles du jeu. Noémie qui est là, a joué la carte de se présenter aux élections fédérales dans le comté de Rimouski-Neigette. Voilà une façon symbiotique de faire avancer ces idées-là autant que possible, donc profiter du système. Évidemment, ça peut aussi prendre des logiques plus conflictuelles, donc s'engager sur le terrain de la rupture, désobéissance civile, voire autre chose. Mais c'est sûr que ces luttes seront absolument nécessaires pour soutenir ces initiatives concrètes et aussi lutter contre la domination de ces parasites sociaux que sont notamment les très grandes entreprises. Voilà. Et puis une dernière proposition. Il y a aussi un travail qui reste à faire, qui est un travail de critique. Il faut continuer à critiquer cette civilisation, critiquer ce monde. On n'a pas fini de le critiquer et d'essayer d'en comprendre toutes les ruses, en fait. Donc ça, c'est un travail essentiel. On est dans un cégep. C'est un lieu qui est privilégié pour faire ça. Et puis surtout, il y a tout un travail d'imagination à faire. Il faut réussir à imaginer un monde post-croissance. Alors justement, un Rimouski post-croissance. C'est très difficile. C'est très difficile de concevoir un autre monde que le nôtre qui soit en même temps désirable et plausible. Mais c'est crucial. C'est la dernière exigence de ce qu'il faudrait mettre en branle pour aller vers cette reconquête d'un monde vécu. Ce que j'ai partagé un peu laborieusement. Excusez-moi, je suis vraiment un peu fatigué. Pour moi, c'est surtout des repères, des points de repère pour l'action, en fait. Se demander finalement par rapport à un acte, par rapport à un projet quelconque, est-ce qu'il est plutôt en contradiction avec ses points de repère ou est-ce qu'il va dans le sens de ses points de repère, est-ce qu'il m'éloigne de ce monde post-croissance ou est-ce qu'il m'en rapproche? Ça garantit pas l'avènement de ce monde post-croissance. J'ai surtout voulu faire valoir la possibilité de ce monde-là, mais aussi, si possible, sa nécessité. Et j'ignore pas les difficultés très nombreuses sur lesquelles butent ces idées et leurs dérives éventuelles. Donc ça, je n'arrive pas avec un projet de paradis sur Terre. Je ne pense pas que ça existe. Ces idées doivent, à mon avis, quand même être défendues, notamment parce que l'enjeu peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pas de réussir à accomplir demain ce programme décroissantiste, mais de résister aujourd'hui à une certaine conception du monde et de l'être humain qui participe de ce désastre. C'est une façon, pour moi, en défendant ces idées, de résister à cette catastrophe. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.